Bonjour. Tiens bon, bien tenir bon, ça dépend si on est plus ou moins direct dans l'affirmation. C'est effectivement ce qui nous paraissait le mieux pour vous partager ce que nous avions sur le cœur en tant que pasteur. Tiens bon, parce que si on lit le 20 minutes par exemple, hein, je dois avouer mes sources, ou bien le matin, je ne sais plus, ma foi, c'est pas brillant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on lit? Une année qui s'annonce dans le grand soleil, horizon dégagé, on peut y aller, tous nos projets sont planifiés. Non, une année qui s'annonce dans le brouillard. Et puis, on risque de revoir encore souvent l'homme au Borsalino que tout le monde connaît. Même ma fille a connu, durant cette année 2020, le nom d'un conseiller fédéral. Je vous propose que vous l'applaudissiez à la fin du culte. Tellement c'est bon, à 9 ans, elle en a connu un. C'est pas mal. Et c'est à la Bercé. Alors là, maintenant, on va en décroissance au niveau des personnes connues. Le deuxième, il est encore très connu, c'est Saint Daniel Cor. Sa parole est comme un oracle, on l'entend, on l'écoute, on la scrute, tellement il a marqué la Suisse lors de ce premier semi-confinement avec ses conférences de presse où il maniait super bien l'art d'en donner un peu, mais pas trop. On ne savait pas exactement où on en était, mais on était rassurés parce qu'il était là. Alors Saint Daniel Cor nous a dit quand même, sur RTS Info, là c'est de meilleure qualité, j'ai bon espoir que la pandémie soit derrière nous, mais quand? Fin 2021. Pas fin 2020, hein, donc il n'y a pas une faute de frappe. Fin 2021. Donc si on se lance dans des perspectives comme il est de coutume, début d'année, on se dit, bon voilà, 2021, on va donner des nouvelles perspectives, on va donner des directions. Là, pour le moment, la perspective, c'est plutôt ça quand même, puisque même Saint Daniel Cor nous dit que fin 2021, on sera peut-être tiré d'espoir. Tiré d'affaire, je veux dire, pas tiré d'espoir. Ça, j'espérais jamais. Et puis, on descend donc hein, dans le degré de connexion avec les personnes qui sont derrière moi. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Et pourtant, il va devenir de plus en plus célèbre parce que c'est le chef de, attendez, président de la Commission fédérale pour les vaccinations. Et il s'appelle Christophe Berger. Je dois lire mes notes, hein, je ne l'ai pas retenu par cœur. Et lui aussi, il avance pas à pas dans le brouillard, parce que même si tout le monde attend le vaccin comme une forme de messie, hein, il y a presque une attente messianique, hein, sur ce vaccin, on se rend compte que dans la pratique, dans la logistique, dans l'organisation de ce que ça implique d'avoir un vaccin dont on ne sait pas exactement quelles seront encore toutes les conséquences, quelles seront les disponibilités, comment est-ce qu'on va s'organiser. Pour lui qui est chef de cette division-là, même lui, il est dans le brouillard. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est effectivement dans cette image du marathon. Moi, j'aime toujours bien le sport, malgré cette année où on emploie souvent cette image-là. Ça m'aide beaucoup d'avoir cette image du sport où on se dit, effectivement, on est encore en pleine course, on est encore en plein dedans, et la ligne d'arrivée, elle n'est pas dans 500 mètres. Ça, c'est sûr. Donc, au moins, on peut se tenir sur des éléments qui sont fiables. Donc, ce qu'on s'est dit en tant que pasteur, plutôt que d'avoir des immenses perspectives à se donner devant nous, on va plutôt avoir des perspectives pour notre vie quotidienne. On va avoir des perspectives pour notre vie quotidienne que comment, dans cette période où il n'y en a plus au niveau général, comment, en tant que chrétien, je conserve mes perspectives qui me permettent finalement de tenir bon. Tenir bon, c'est un terme comme un autre, hein, mais c'est pour se dire comment est-ce que je regarde le quotidien en tenant bon et en comptant sur le Seigneur. Qu'est-ce qui nous permet de tenir bon? Et puis, on s'est aussi lancé un deuxième défi, c'est de pouvoir vous donner peut-être aussi, par moment, quelques mots de témoignage. Et moi, ce qui m'a permis de tenir bon et ce qui me permet de tenir bon, ce que j'ai découvert dans l'année 2020 et qui me sert vraiment de carburant à fond, c'est cette parole du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pour moi, si je dois donner mon témoignage, c'est clairement cette parole-là, d'entre toutes les paroles de la Bible, hein, il y en a beaucoup d'autres, qui a été une boussole durant toute l'année 2020 et qui sera une boussole pour moi en 2021. Et qui me fait que le brouillard ne m'impressionne pas trop, qui fait que le brouillard ne me déstabilise pas trop. Je suis plutôt quelqu'un qui est privilégié, j'ai une bonne formation, j'ai facilité dans beaucoup de choses, Et pour la première fois en mars dernier, j'ai véritablement expérimenté l'existence d'une contrainte extérieure qui détermine la majeure partie de mon existence. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une expérience complètement nouvelle. Et je remarque que dans nos discussions, on a tendance à oublier que si on doit prendre des décisions qui sont désagréables, ce n'est pas parce qu'on aime prendre des décisions qui sont désagréables, mais parce que la contrainte, elle reste extérieure et elle reste toujours bien présente. On ne peut pas essayer de la fuir ou faire comme si cette pandémie n'existait pas. Elle est toujours là. Elle est devant nous et elle fait partie de notre quotidien. Et c'est ça, je pense, qui, moi, m'a dérangé le plus fondamentalement, c'est que je ne maîtrise plus l'agenda, je ne maîtrise plus certains éléments essentiels de ma vie, les déplacements, mes envies de loisirs, de voyages, et je ne maîtrise plus, et là ça m'a touché plus profondément, je ne maîtrise plus l'entier de mes relations, en tout cas pas de manière très très fluide. Et pour moi ça a été une perte importante. Perte de relation avec une bonne partie de ma famille, perte d'une relation avec certains de mes copains aussi, mais aussi avec vous, une bonne partie de l'Église, où par moments on se voit comme ce matin et je m'en réjouis, mais je ne sais pas exactement ce qui va se passer mercredi prochain, donc je suis un peu dans l'expectative. Perte de relation alors que je suis un homme de relation. Et pour moi, ça, ça a été l'élément le plus compliqué à gérer. J'aime le contact avec les gens, j'aime sentir ce qui se passe, j'aime voir les regards, les attitudes, et tout ça, ça a été vraiment vécu de manière beaucoup plus compliquée. Perte d'autonomie, perte de pouvoir décisionnel, perte de relation, ça fait quand même pas mal de pertes d'un coup. Il y a de quoi être un peu déstabilisé par cette contrainte extérieure qui vient nous remettre en cause, et qui nous remet en cause pas pour cette semaine, parce qu'on fait toujours référence à ces fameuses premières 7 semaines, mais là, ça fait bientôt 9 mois que ça dure. Donc, ça nous remet en cause, je dirais, en profondeur. Et moi, ça m'a vraiment permis d'expérimenter cette relation avec Dieu, de la creuser, cette relation avec Dieu, notamment à travers la prière, et particulièrement la prière d'autres toutes. Et je nous invite à un petit exercice peut-être particulier pour nous, Église évangélique, on a moins l'habitude de le faire, mais je vous invite simplement maintenant à vous lever aussi chez vous, et puis qu'on puisse prier ensemble cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Qu'est-ce qui m'a permis de tenir le coup, cette prière du Notre Père, qui est finalement la prière avec L, A et un P majuscule. Une prière qui, pour nous en tant que croyants, on la sait par cœur et elle nous fait du bien. Elle fait partie de notre vie intime. Vous l'avez tous dite ce matin, sans regarder vos téléphones, sans regarder un petit bout de papier, parce qu'on la sait. On la sait profondément. Alors, une grande critique, c'est qu'on la récite machinalement. La grande expérience que j'ai pu faire en 2020, c'est assez basique, finalement, quand on y pense, mais c'est de pouvoir la faire mienne chaque jour. De pouvoir la prendre pour moi comme des promesses chaque jour. Et cette prière, clairement, elle nous indique le chemin et elle nous donne la vision pour notre vie chrétienne. Ça, c'est un terme qu'on aime bien chez les évangéliques, la vision. Puis on oublie complètement que ce n'est pas du tout un terme qui vient de la Bible, mais c'est un terme qui vient du monde du management, où chaque entreprise doit avoir une vision, une direction, puis du coup, comme on s'est dit que c'était cool de faire la même chose que dans le management, dans l'Église, on se dit, ah ben il nous faut aussi une vision, des objectifs, une stratégie et compagnie. La Bible n'emploie quasiment jamais ce terme, parce que quand elle parle de vision, c'est plutôt la vision de qui? Pas de l'Église, c'est la vision de Dieu pour nous. Ce qui change un tout petit peu la donne. La vision de Dieu pour nos vies. Et la vision de Dieu pour nos vies, je crois qu'elle est beaucoup, et de manière très profonde, exprimée dans cette prière. Car c'est une vie qui est centrée sur l'essentiel, c'est une vie qui est centrée sur ce que Dieu pense, sur quelle est la volonté, quelle est la puissance de la sainteté de son nom pour ma vie à moi. Et ensuite, ces promesses qui nous sont données. Donc, finalement, en tant que croyant et en tant que pasteur, d'une certaine façon, je m'en tape un peu de savoir si cette vision elle sera positive ou pas, si elle sera suffisamment cool ou pas, si elle sera funky ou pas. Elle est simplement la vision que Dieu nous donne. Cette vision de dépendance, de relation, de dialogue et de Dieu qui donne une direction à nos vies. Et cela, finalement, tous ces éléments-là, ne peut prendre que la forme d'une prière. On part d'une évidence, en tant que croyant, je sais que le pain me vient de Dieu, mais en le priant, on expérimente que le pain vient de Dieu. On le fait nôtre, on le place dans cette dépendance avec Dieu. On prie notre Père, on lui fait une demande et on s'attend à lui. Ce n'est pas quelque chose que l'on sait, c'est quelque chose qu'en le priant, on commence à expérimenter, on commence à le palper. Pour ça, j'avais besoin de savoir que c'était vrai. Hein. Ça n'implique pas que le cerveau et puis tout ce qui est cérébral soit mis de côté. Simplement, en le priant, j'ouvre mon cœur d'une certaine façon à ce que je sais, je peux commencer à le saisir, je peux commencer à le pétrir, je peux commencer à le faire mien pour ma vie de tous les jours. Et je dirais qu'il y a une double communion dans ce Notre Père. Parce que qui est-ce qui prie dans cette prière qui nous est apprise? C'est qui prie la première fois le Notre Père? C'est Jésus. Et il ne dit pas « Donne-leur aujourd'hui le pain de ce jour ». Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, le premier qui prie cette prière, il prie lui aussi, le Fils de Dieu, en nous. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. On a parlé de Noël, que c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Et là, on a un écho dans la parole qui est absolument fabuleux, où ce n'est pas simplement de se dire que Noël, on doit dire, là, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. L'entier de la parole nous prouve cette communion de Jésus avec nous et on le retrouve là dans notre Père. Pensez chaque fois que vous le priez. Jésus a prié exactement cette même prière et finalement, quand on l'a pris, il l'a pris avec nous. Christian, tu nous as témoigné que tu te dis l'important pour nous, c'est de nous tourner vers Jésus le plus souvent possible dans cette période d'incertitude. En priant notre Père, finalement, on prend Jésus avec nous, bien Jésus nous prend avec lui plutôt, pour être en relation avec Dieu. Tout simplement en disant notre Père et en pensant que la première personne qui l'a prié, c'est Jésus, notre Sauveur. Lorsque l'on croit que l'on, et on affirme que Jésus est avec nous, qu'il est là de nous, ce n'est pas une invention destinée à nous consoler ou nous rassurer, c'est une dimension réelle, vraie et essentielle de qui il est. Il est Dieu avec nous, il est avec nous et pour nous. Le Dieu auquel nous croyons, le Dieu qui nous accompagne, est celui qui demande son pain au Père avec nous. Ce n'est pas rien. C'est lui-même qui se met dans cet état de dépendance au Père, comme nous, nous sommes dans cet état de dépendance avec lui. Il se trouve dans le même état que nous. Donc ça veut dire qu'il se trouve dans nos questions, il se trouve dans nos émotions, il se trouve dans nos fébrilités, il se trouve dans toutes les incertitudes qu'on peut avoir. Par cette prière, il nous l'indique de manière décisive. Il prie avec nous le Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. De nouveau, ce n'est pas de la théorie. Hein. En le priant, en le faisant nôtre, on se retrouve avec Jésus en train de porter nos questions, nos fébrilités, nos inquiétudes devant Dieu. Parce que Jésus n'est pas non plus dans l'échappatoire face aux difficultés. Il ne se dit pas « le Covid, ça n'existe pas » ou bien « moi, j'essaye de m'en sortir tout seul comme un grand ». Ni dans l'espoir quasi messianique, je l'ai dit, d'une solution technique. Il prend la vie dans sa globalité, sûr de la providence de Dieu, c'est-à-dire la providence de Dieu, dans le soutien de Dieu dans chaque type d'étape. La providence de Dieu, c'est ça, c'est le soutien de Dieu dans chaque type d'étape que nous sommes appelés à vivre. Et souvent, dans notre société opulente, il s'avère qu'on n'en a pas bien beaucoup besoin de cette providence de Dieu. Souvent, on peut se contenter, très fièrement d'ailleurs, d'être autonome, sans rien devoir à personne. Et c'est peut-être là, cette autonomie comprise de cette manière-là, la pensée la plus étrangère de la foi chrétienne. Précisément, le chrétien considère qu'il n'est autonome de rien, puisqu'il est dépendant de Dieu. C'est simple, hein ? Il est autonome de rien puisqu'il est dépendant de Dieu. Et cette dépendance devient peut-être plus palpable dans un temps de pandémie. Parce qu'en effet, comment comprendre ce pain qui nous est donné, ce pain qui est partagé avec tous les croyants et qui est partagé avec Jésus? Pour le contexte de l'époque, c'est assez simple. Le pain de ce jour, c'est le pain que l'ouvrier doit gagner pour nourrir sa famille au jour X. Et c'est le pain qu'il devra gagner au jour X plus 1 et au jour X plus 2. Mais pour lui, à cette époque-là, le pain de ce jour, c'est vraiment le pain de ce jour. Pour nous, les Suisses, on a un peu de la peine à comprendre. Parce que pour nous, ce n'est plus un souci. Et gloire à Dieu. Mais dans le contexte où Jésus prie cette prière, c'est vraiment le pain de ce jour. Et je rappelle en passant que c'est une situation qui est vécue à l'heure actuelle où je vous parle, par des milliards d'êtres humains à travers le monde, et qui est même vécu ici dans nos contrées opulentes de Suisse. Toutes les distributions alimentaires nous le prouvent, que ce soit ici à Nyon, que ce soit à Genève, que ce soit dans d'autres villes de Suisse. Cette question, notre pain de ce jour, n'est pas si étrangère que cela finalement. Et pourtant, de manière globale, le contexte suisse est aux antipodes d'une compréhension concrète ou correcte du Notre Père. On a beaucoup d'assurance, on a beaucoup de sécurité, qui nous empêche de vraiment palper ce lien de dépendance avec Dieu. Et pour nous, en tant que croyants, on peut se demander, au fond du fond, en quoi est-ce que je mets ma foi? Est-ce que je la mets dans ces sécurités-là qui me sont données par la qualité de notre système? Puis je ne suis pas en train de le critiquer, hein, comprenez-moi bien. Ou est-ce que je le mets au fond du fond, s'il devait tout devait disparaître, est-ce que je le mets vraiment en Dieu qui me donne le pain de ce jour? Pour moi, en tout cas, c'est une excellente question que je dois souvent me poser. Est-ce que je mets ma foi dans le système et dans mon compte épargne, qui est généralisé, que ce soit l'AVS, l'AI ou quoi que ce soit, ou est-ce que je le mets en Dieu qui nous donne le pain de ce jour? Si tout ce système savamment construit avec beaucoup d'aspects positifs, il est là, il n'est pas décisif. Il ne mérite pas que je mette ma foi dedans. Pourtant, je ne suis pas en train de le critiquer parce que je trouve qu'il a énormément de points positifs, parce qu'il met notamment en évidence la solidarité entre les générations, la solidarité entre les riches et les moins riches. Il met en évidence cette solidarité-là dont on a besoin en tant que société. Mais par contre, je ne peux pas mettre ma foi dans ce système-là parce que je crois que ce pain, il vient de Dieu. Ce système n'est pas une fin en soi, c'est le cas de le dire, et même si tout devait s'effondrer, Dieu resterait là. Dieu resterait avec nous comme Jésus a prié cette prière en son temps et qu'il continue de la prier avec nous. Et peut-être qu'avec cette pandémie, on ressent un peu plus cette fragilité, ce besoin de dépendance avec Dieu. Peut-être qu'avec la pandémie, on ressent un peu plus encore que cette faim, cette nécessité de la providence et de la générosité de Dieu. Et finalement, cette double communion, elle se joue aussi dans le fait que ce pain que l'on reçoit de Dieu, ce n'est pas un pain que je garde exclusivement pour moi, mais c'est un pain que, dès le début, par définition, je suis appelé à partager. Ce n'est pas « donne-leur leur pain à chacun » ou bien « donne-moi mon pain quotidien », c'est « donne-nous notre pain quotidien ». Donc pour nous, en tant que croyants, c'est impossible de se dire que le pain que je vais recevoir de Dieu, c'est un pain de propriété individuelle. Ça, c'est de nouveau un grand dogme de notre société. C'est jamais envisagé sous cet angle-là en termes de perspective et de vision chrétienne du monde. Tout ce qu'on reçoit, c'est un don qui se joue dans le nôtre. C'est un don qui se joue dans le partage. Et en ce sens, on est encore de nouveau, si on le vit pleinement, clairement à contre-courant. Ce qu'on reçoit, je ne le prends pas d'abord pour moi, je le prends d'abord dans une perspective à 2, 3, 4, 5, ça dépend de l'ampleur du don. La demande du pain n'est pas une requête individuelle, c'est de notre pain qu'il s'agit. Et c'est la communauté, nous tous, en prière, donne-nous, qui sollicite ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. C'est des phrases qui sont tirées d'un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Jean Zumstein, puis moi qui m'émeuve sur la force de la communauté. Quand la force de la communauté peut dire ensemble, donne-nous l'essentiel de nos vies. Donne-nous ce qui nous permet de vivre. Et cette prière, je ne la prie pas tout seul dans mon coin, mais je la prie avec mes frères et sœurs qui sont là, à côté de moi, comme on vient de le faire. Il y a quelque chose de fort là. Où on met dans la balance nos besoins les plus essentiels pour les partager avec mes frères et sœurs qui sont à côté de moi. Ce n'est pas chacun son affaire. C'est on décide consciemment, on fait le choix de la vie ensemble pour dire à Dieu nos besoins les plus élémentaires. On s'ouvre, hein, là. On fait baisser des barrières, on fait baisser des défenses. On s'ouvre pour dire ensemble, Seigneur, viens nous donner ce que nous avons le plus besoin. Le pain n'est jamais la propriété ou l'apanage d'un individu au détriment des autres. La demande du pain implique une éthique de partage. J'ai fini là-dessus. Et finalement, de ce pain, je tire ma force. On m'a parlé beaucoup de faiblesse, de fébrilité, de dépendance, mais on ne peut pas en rester là. Sinon, on arrête tout, hein. Et puis on stoppe le marathon. Si on veut continuer de courir le marathon, on a besoin de force. Moi, je suis allé marcher 2-3 heures avec mes enfants dans le Jura hier. Je vous garantis que les sucres de raisin, on y est allé, là, hein, pour continuer le challenge. C'était assez important. Sucre de raisin, abricot, tous les 500 mètres, ça marchait bien, comme ça, il n'y a pas trop de plaintes. Mais pour vous dire qu'il y avait quand même, malgré tout, il faisait quand même assez froid, le besoin d'aller de l'avant, d'avoir cette force-là qui nous est donnée là où on en a besoin. Et puis ça, c'est ce pain que Dieu nous donne, qui nous donne ces forces-là. Ce n'est pas qu'une question spirituelle. C'est aussi une question très terre-à-terre. Comment est-ce que j'ai les forces nécessaires d'affronter des environnements instables, des environnements d'incertitude, des environnements aussi où la souffrance grandit. On a besoin de cette force que le pain de Dieu nous donne. Une force, et là on retrouve le slogan, qui permet de tenir bon. Qu'est-ce qui me permet de tenir bon? C'est ce pain que Dieu nous donne. Et je nous invite maintenant à prendre un temps avec Roger, un bon temps, là, comme on a le temps qui s'espace grâce à ces différentes contraintes qui nous sont imposées. Je nous propose de prendre un bon temps de méditation avec cette question qui est derrière moi. Moi, je me suis un peu ouvert sur cette question, qu'est-ce qui me permet de tenir bon? Christian a aussi pu le faire. Ensuite, nous aurons le privilège d'entendre Damien et Marlène. Mais qu'on puisse prendre ce temps maintenant pour nous dire qu'est-ce qui, moi, dans ma vie, permet de tenir bon. Qu'est-ce qui est mon trésor, finalement, que ni la rouille ni quoi que ce soit ne va abîmer? Qu'est-ce qui me permet de tenir bon? Et prenez le temps aussi chez vous, là où vous êtes, de penser, de réfléchir, de méditer, de faire descendre en vous cette question-là. Qu'est-ce qui me permet ou qu'est-ce qui vous permet de tenir bon? Et de ce qui ressortira, moi, je serai assez reconnaissant si vous veniez vers moi ou bien là, mes collègues pasteurs, puis vous me dites, voilà, moi c'est ça, puis éventuellement, peut-être aussi dans un culte ou de manière publique, dire, ben moi, en tant que XY, ce qui me permet de te dire, bon, c'est ça, et de le partager à l'ensemble de la communauté. Comme on a pu prier ensemble, se donne-nous notre pain quotidien, qu'on puisse aussi partager simplement une forme de ce pain, hein, qu'est-ce qui me permet de tenir bon dans ma vie. Alors n'hésitez pas, si durant la semaine qui s'ouvre et les semaines suivantes, à vous approcher de nous et puis qu'on puisse être, je dirais, un certain nombre à pouvoir simplement ouvrir nos cœurs et dire, voilà, moi, ce qui me permet de tenir bon, c'est ça. Pas besoin de faire des grands discours de plusieurs heures, mais juste quelques minutes qu'on puisse partager tous ces pains qui forment la communauté. Qu'est-ce qui vous permet de tenir bon? Bonne méditation à chacune, à chacun.